Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah, regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Terrain Vague. Bonjour à Tom en régie. Et bonjour à notre invité du jour. On accueille Nathalie Guillon de Méritance, avocate à la Cour. On peut dire avocate à la Cour ?
Bonjour d'abord.
Bonjour d'abord.
Merci de me recevoir.
Avec plaisir.
Oui, tout à fait. C'est la mention que nous avons sur notre papier en tête ou carte de visite. Oh. Avocat à la Cour.
Je trouve ça trop classe à chaque fois, avocat à la Cour.
On fait ce qu'on peut.
Alors, Nathalie, aujourd'hui, on s'est dit qu'en tant qu'émission culturelle et qu'on parle beaucoup d'art et qu'on invite des artistes, etc., on s'est dit que c'était chouette d'inviter une personne qui va pouvoir nous parler un peu de droit d'auteur, de droit à l'image pour se dépatouiller un peu de tous ces termes juridiques qui sont parfois un peu flous. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter... ponctuer un peu d'anecdotes ou de cas pratiques, tu vas nous raconter, nous expliquer un petit peu en quoi tout ça consiste. Et je crois qu'on démarre, d'abord on va parler de toi, qui tu es. Quel est ton parcours un petit peu, brièvement, ce que tu veux bien nous dire de toi ?
Merci. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est surtout de parler des artistes et du droit d'auteur, mais je me présente donc assez rapidement.
Oui.
Donc, je suis avocat à la Cour,
oui.
Près la Cour d'appel de Montpellier, avocat en premier lieu, bien sûr,
oui.
Et en seconde intention, avec des activités qui sont maintenant ouvertes aux avocats, qui deviennent des interlocuteurs naturels qui sont de leurs clients,
okay.
Qui deviennent de nouveaux interlocuteurs pour une nouvelle catégorie de clientèle, mais
d'accord.
Qui existe, et donc, par exemple, en l'occurrence, les artistes.
Oui.
Donc, les avocats, depuis quelques années, développent ces nouvelles compétences qui sont organisées et réglementées par la profession.
Okay.
Et une de ces nouvelles compétences que j'exerce en étant inscrite à l'ordre des avocats,
okay.
Est celle d'avocat mandataire d'art ou d'artiste.
D'accord.
Voilà.
Ah, en fait, c'est ça, ta seconde casquette. Je me demandais justement quelle forme et quel statut ça avait, si c'était vraiment une activité vraiment autre ou si c'était avec ta casquette d'avocat, en fait.
Non, je suis tout à fait sous la même casquette,
d'accord.
Sauf que c'est un autre domaine d'activité,
d'accord.
Mais qui reste soumis à ma déontologie.
Ok.
Que je dois respecter,
bien sûr.
Qui reste soumis aux règles de ma profession,
mm-hmm.
Mais qui s'inscrit dans un nouvel espace. Voilà.
D'accord.
Donc ça, c'est un avantage. Et tout comme, par exemple, la transaction immobilière, que je pratique également en tant qu'avocat mandataire,
okay.
Et qui s'inscrit surtout pour nos clients. Donc là, on parle du droit d'auteur, des artistes,
ouais.
Et d'autres sujets. Et qui s'inscrit dans une sécurité qu'on va leur proposer.
D'accord.
Et les garanties de toutes nos compétences professionnelles, notre responsabilité professionnelle,
okay.
Qui est différente de celle des autres acteurs de terrain, sur ce terrain-là, qui vont être par exemple les agents d'artistes,
okay.
Qui aussi ont leurs compétences. Nous avons des compétences différentes.
Ok, oui, on a eu un petit son bizarre, mais c'est pas grave. ça fera, je pense, l'objet d'un prochain épisode parce que, à mon avis, tu vas revenir plusieurs fois chez Divergence.
Avec plaisir. Avec plaisir.
Et tu nous parleras justement de cette activité. Alors, j'ai envie de dire à côté, mais pas tant, puisque c'est
non.
Vraiment dans le cadre de tes fonctions d'avocat. Et tu reviendras pour nous parler de cette activité-là. En attendant, on va se focaliser un petit peu sur. On va rentrer déjà dans le vif du sujet. Le droit d'auteur. Explique-nous. Moi, je ne sais pas trop comment le prendre. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est en fait ?
Voilà. Alors, vaste sujet, bien sûr, mais c'est quand même le sujet principal qui va nous intéresser pour les artistes.
Ouais.
Les artistes qui doivent être évidemment toujours mis en valeur dans le cadre de leur profession. Donc ça, c'est fait par leurs galeristes, c'est fait par les spécialistes de l'art.
Mm-hmm.
Ça peut être aussi fait maintenant par les avocats mandataires d'artistes, parce que pour compléter ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que nous exerçons cette profession sur cette matière-là, mais pas de façon principale, mais on va dire que de façon accessoire, nous pouvons aussi travailler avec tous les acteurs du marché de l'art et diffuser aussi, donc ça c'est une originalité, une nouveauté pour notre profession, c'est que nous allons pouvoir favoriser la diffusion des œuvres, des artistes, quelles qu'elles soient, hein, puisque on va trouver la musique, la création, l'art plastique, la sculpture, voilà. Mais surtout, on va pouvoir aussi assister l'artiste dans la diffusion auprès de ses clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Et c'est le terrain que j'ai choisi, les entreprises, pour permettre aux entreprises, par des biais fiscaux, montage de société, de pouvoir investir dans l'art, ce qui existe déjà, mais qui n'est quand même pas finalement si connu par une catégorie d'entreprise qui sera plutôt de la moyenne ou de la petite entreprise. Donc ça, c'est mon ambition d'amener aussi l'art dans l'entreprise pour que ça bénéficie également, par exemple, aux salariés, pourquoi pas, pour que l'art véhicule une image pour l'entreprise,
un petit peu
une image accessible, mais pour que ça soit une image marquante, pourquoi pas, pour l'entreprise qui a choisi de se positionner sur ce domaine-là. Ça peut être, par exemple, de l'art engagé. Ça, c'est un sujet qui est très important actuellement, puisque les entreprises, maintenant, sont sorties du schéma classique de la rentabilité. Donc, on travaille sur ces terrains qui sont très, très intéressants et qui peuvent accompagner l'artiste et les futurs clients. Voilà, donc ça, c'était pour compléter ce que j'ai dit sur l'environnement de mon activité. Alors, évidemment, je disais tout à l'heure, je parlais de la sécurité de la transaction, de la sécurité auprès de l'artiste qui va être mon client, hein, qui va vraiment être mon interlocuteur. Eh bien, cette sécurité dans l'art, elle se trouve à travers le droit d'auteur. Alors,
Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le droit d'auteur ? Parce que vaste sujet quand même.
C'est un très très vaste sujet. En fait, le droit d'auteur, c'est l'ensemble des droits qui va protéger donc la création de l'artiste, qui est en fait ce qu'on appelle la création originale, une création originale, personnelle, d'une œuvre. Et cette œuvre peut être de différentes natures. C'est une œuvre qui peut être musicale, qui peut être littéraire, qui peut être plastique, qui peut s'exercer dans la vidéo, puisque maintenant, on a vu que l'art va très loin, y compris avec l'intelligence artificielle, on en parlera tout à l'heure, et donc des créations dans des espaces virtuels qui existent aussi. Donc, on s'aperçoit que cette protection, c'est ce qui va rendre plus difficile la protection, va s'exercer déjà dans différents domaines. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que ça s'applique sur une création originale et personnelle du créateur. Et je dis créateur de façon très précise, parce que si on dit artiste, ça veut tout et rien dire. Donc, qu'est-ce qu'un artiste ? Voilà. Donc, on va parler du créateur.
Oui, à partir de quel moment tu peux dire que tu es un artiste ou dans quel milieu, etc. C'est vrai que c'est... bon, créateur, il y a le côté, il y a l'aspect, j'ai créé quelque chose, vraiment, et c'est cette création, du coup, qui...
J'ai créé quelque chose, et si on doit retenir une seule chose de ce que j'explique aujourd'hui, c'est qu'il doit s'agir d'une création originale. Voilà, donc cette notion, je donne des exemples tout à l'heure. Donc c'est une création originale. Et alors, ce droit d'auteur, ça aussi c'est assez important à retenir, c'est simple, va se diviser en deux branches. C'est qu'il y a le droit moral et le droit patrimonial. Et ça, c'est une notion qu'on entend très souvent dans les procès, dans les affaires dites publiques. Et je dirais que c'est plus souvent le droit moral qui est évoqué que le droit patrimonial. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit moral ? Qu'est-ce que c'est que le droit patrimonial ? Donc, le droit moral, comme son nom l'indique, ça implique une notion immatérielle. Donc, c'est un droit surtout perpétuel que va avoir... Donc, le créateur, l'auteur. Et c'est un droit qui va se transmettre à ses ayants droit. Donc, on parle aussi dans des affaires, par exemple, on a pu entendre parler des héritiers de Picasso, par exemple, etc., qui, eux, non seulement ont hérité de ce droit moral, mais aussi, parce que dans certains cas, ça se double du droit patrimonial. Donc, le droit moral, ça va permettre, pendant très longtemps, alors que l'auteur est mort, de protéger, de contrôler l'esprit de l'œuvre dans des conditions juridiques et de jurisprudence qui sont très diverses, très variées, et très très nombreuses, bien sûr.
Et très complexes,
j'imagine. Et très complexes, et qui donnent l'occasion de s'exprimer sur beaucoup de notions de morale, de culture aussi, parce que c'est très culturel, puisqu'évidemment, là, c'est pour ça que le droit d'auteur, le droit de ce qu'on appelle la propriété littéraire artistique, est un droit complexe, parce qu'il s'exerce différemment selon les pays où la question va se poser, puisque les droits ne sont pas les mêmes, alors qu'une œuvre peut voyager dans différents pays. Voilà, donc c'est ce qui va être très intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit patrimonial, lui? En fait, ça, c'est un droit beaucoup plus concret, parce que c'est un droit temporaire. Vous avez peut-être entendu de ce qu'on indique quand on dit que l'œuvre est tombée dans le domaine public.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, selon le type d'œuvre, ça va être limité dans le temps.
Ok.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
au-delà de cette limite,
eh bien, évidemment que l'œuvre existe toujours.
Non, bien sûr.
Mais le rendement financier, c'est-à-dire les droits qui vont pouvoir être retirés, que ce soit avec des licences, des contrats, des exploitations, de la représentation, eh bien, va tomber, puisque ça tombe dans le domaine public.
D'accord.
Mais ça ne fera pas disparaître pour autant le droit moral.
Vous êtes sur Divergence FM et vous écoutez le best-of de Terrain Vague.
Je suis Salamèche, Montpelliérain.
Ouais. Un vrai, t'es né ici?
Un vrai de vrai, je suis né ici.
Oh.
Voilà.
Ils sont rares ceux-là.
C'est ça. artiste, graffeur, muraliste, peintre. Voilà, j'ai grandi dans les cultures urbaines.
Ouais.
Voilà, j'étais jeune adolescent dans les années 90, donc on va dire que c'était... J'étais en plein dans les cultures urbaines et dans la culture hip-hop dès le départ.
Ouais.
Autant à la maison que dans ce que je faisais, parce que j'étais beaucoup dans les skateparks, roller au pied. C'était la grande mode du roller à l'époque.
Mmh. On m'a dit que tu faisais du roller.
Voilà, j'en fais toujours d'ailleurs.
Et t'en fais toujours.
Voilà, je m'entretiens.
Ah, c'est bien.
Tu vois.
C'est bien, il faut garder la forme.
Et en fait, j'arrive dans le graffiti justement par l'intermédiaire de cette culture-là, en fait, parce que... à la maison, il y a du hip-hop. Mon papa, il est marseillais, il écoute du rap de Marseille parce que c'est déjà populaire, ça passe déjà à la télé et puis c'est un peu nouveau.
Ah oui, donc voilà. T'as papa déjà qui te met dans le bain, quoi.
Mais nous, avec mon frère, on est en réaction avec ça et on écoute plutôt du métal et du hard rock et tout ça, tu vois. Faut pas faire comme papa.
Mais je te vois tellement pas écouter du métal.
Ouais, c'est ça. Donc,
ah oui, d'accord.
Nous, on n'est pas...
Bon, papa un peu rebelle déjà qui écoute du rap et vous encore plus, quoi.
Voilà, ouais, presque. Mais même dans le métal, il y avait un peu de cette culture hip-hop qui transfusait un peu en filigrane avec des groupes comme Rage Against the Machine, des choses comme ça. C'était c'était un peu un mix. Mais il y avait cette culture déjà skate, les baggies, les trucs comme ça, dans le métal et tout ça. Donc,
c'est vrai.
Donc voilà, et moi je suis dans les skateparks et en fait, je vois des graphes de partout.
Et oui.
Dans les magazines qu'il y a à la maison, il y a des pages consacrées au graffiti. Et puis moi, je dessine.
J'allais te dire, tu dessinais aussi déjà avant d'arriver au graffiti, ouais.
Je dessine déjà depuis que je suis tout petit, en fait, je fais que dessiner tout le temps. C'est un truc qui est naturel, quoi.
Ok.
Donc je me dis, moi je veux participer à ça. J'ai pas de quelqu'un qui m'imite ou quoi que ce soit.
C'est toi tout seul.
Je tagouille déjà un peu, tu vois, dans les toilettes du collège. Je fais tout ce que tout le monde fait un petit peu, tu vois. C'est vraiment des prémices. Mais je me dis dans ma tête, je veux participer à ça. Pas être juste, le meilleur, pas révolutionner le cutru ni rien. Mais je me dis, je vais en faire.
Ok. Je fais partie du mouvement, quoi.
Ouais, voilà. Et en fait, à l'époque, à Montpellier, il y avait un magasin qui s'appelait Coma Sound Cartel, qui était tenu par Desch. Par les C4 et tout ça. Donc, c'est vrai que moi, quand je grandis aussi, il y a cette explosion du groupe C4 dans la ville.
Ouais.
Donc, il y avait les TDM qui faisaient des fresques.
Tout à fait.
Des belles fresques et tout ça. Donc,
qu'on pouvait
voir. Voilà. Et puis, on les connaît encore aujourd'hui.
Mais oui.
On les voyait et nous, ça nous impressionnait. Quand tu as 14 ans et que tu vois des murs des TDM, voilà, tu prends des grosses claques, quoi. Et aussi, on avait ce mouvement des C4 qui était très visible, très présent. Et on se mangeait des gros graphes C4 dans la tronche à longueur de journée, sans savoir ce que c'était. Donc, c'est fascinant parce que t'es petit. Et en plus de ça, moi, que je faisais du roller, il y avait les auteurs de ces graphes-là.
Ouais.
Je faisais du roller avec eux. Et pour moi, c'était les grands, en fait.
D'accord. T'avais quel âge à peu près ?
Moi, j'avais 14 ans. Un
truc D'accord, comme ça, ok, quoi. Oui, ouais. Vraiment ado, ado.
Ouais, voilà. Okay. C'est 1999, tu vois, D'accord. C'est même pas encore l'an 2000. On te parle de l'an 2000, enfin, c'est ouf, ah ouais. Tu vois, dans ma tête, c'est fou.
Ah ouais, il se passe plein
c'est
de trucs,
c'est la révolution
quoi,
totale.
Ah ouais, excellent.
Et moi, en fait, à cette époque-là, je vais à Commerçant de Cartel, pas pour acheter des bombes ou des marqueurs, mais pour acheter des vinyles.
Ah !
Je commence, tu vois, là, je réembrasse un peu la culture hip-hop, justement.
À travers le vinyle,
parce ouais. que j'ai mon premier ampli et que, en fait, bah, je veux me faire ma petite collection. Et donc, D'accord. j'achète des vinyles, tu vois, For My People... des vinyles de la FF, des vinyles de okay. IAM, hein, des trucs
oh
comme
là
ça.
Là, c'est vintage tout ça.
C'est à l'ancienne.
Ah coup. Ouais, grave.
Et en fait, ces crapules de comme un centre cartel, tu vas pour acheter des vinyles et tu repars quand même avec un marqueur. Tu vois.
Bien joué.
Parce qu'ils savent.
Bon marketing là quand même. Hein.
Ils savaient te mettre dans la filouterie déjà. Donc
ça
voilà.
commençait comme
en fait,
ça.
Je m'y mets parce que je veux participer, donc je m'y mets.
Ok.
Tout seul, des soirs où sur le trajet pour rentrer du skatepark, des trucs comme ça, ben je me mets à faire des tags, je me mets à faire des graphes. Voilà. Je crois que mon premier graphe, je le fais tout seul, au bord de la route.
Ah ouais
à Montpellier.
C'est chaud quand même. Hein.
Ouais, mais dans ma tête, c'est pas interdit. Dans ma tête, c'est...
Bah, après, tu voyais tellement de monde le faire, je pense que...
Tu vois sur les murs, tu vois, moi dans ma tête, je suis hyper naïf, en fait, je suis vraiment en mode ignorant total.
Ouais, je vois.
Je dis je vais en faire, j'en vois partout donc je me dis bah
j'en fais.
C'est open quoi, il y a moyen d'en faire, c'est pas
ouais.
Je vois pas l'interdit en fait.
Okay.
Tu vois c'est très candide en fait.
Tu le vois arriver à un moment donné l'interdit ou pas ?
Je le vois assez vite arriver mais en fait pour te dire le truc, je fais un graphe, les voitures me klaxonnent parce que je me cache pas du coup, c'est pas
oui,
interdit,
forcément.
Je me cache pas. Les voitures me klaxonnent, moi je prends ça pour des encouragements.
Excellent.
Je fais un graphe, je me recule, je regarde le graphe. Je fais, ah, ça va pas du tout là. c'était vraiment pas réussi du tout.
Ok.
Et donc je refais le graphe sur place.
Le
tu vois,
mec
je me
se
dis non, je peux pas laisser le mur comme ça, impossible. Donc je le refais. Donc je reste quoi, au moins une heure et demie
ah ouais.
dans le truc quoi. Et là je refais un graphe et là ça me convient à peu près.
Tout ça en plein jour, du coup.
Non,
ah,
la nuit quand même. J'ai
okay.
quand même cette conscience-là de le faire la nuit.
On pourrait se poser la question.
Et en okay. fait, je kiffe, quoi. Je me prête au jeu, je kiffe. Tu vois, je me mets à graffer tout seul. Donc, c'est le nom du crew de Roller. C'est 347.
Ok.
Tu vois, ça va être mon crew de graffiti de rue, principalement. Et... On a une petite équipe et en fait, chacun dans notre coin, on s'y met un peu.
Okay.
Mais je crois, voilà, dans ce crew-là, il y avait déjà des taggeurs, des graffeurs.
Mm-hmm.
Il y avait Blop qui avait commencé avant moi. Moi, je commence dans mon coin. Puis il y a Namo qui fait des tags un peu dans son quartier aussi. Et puis en fait, on est tous, on fait tous du roller, mais on fait tous aussi du graff.
Okay.
Parce qu'on a ce modèle-là, en fait, des graffeurs...
Ouais, puis vous les avez suivis, quoi.
Ouais, on les enfin, imite.
On les,
par mimétisme, en fait.
Ouais.
Et un an plus tard, je fais une session roller où il y a Small,
okay.
qui était très fort en roller.
Ouais.
Et il dit, oh les gars, ça tag un peu, j'ai vu, machin. Nous, on fait, bah ouais, carrément, on est là. Et il dit, ça vous dit de faire un train ?
Oh.
On fait, bah ouais.
Tu
vois, la proposition.
Ah bah, tu peux pas décliner, quoi.
Tu l'as refusé, quoi.
Ouais.
Et on lui dit, bah ouais, on est chaud, mais là, on n'a pas de bombe, on n'a rien. Il nous dit, ah, suivez-moi, il n'y a pas de souci, on va aller chercher des bombes, on va aller faire un graphe
okay.
sur un train. Nous, on était comme des oufs, tu vois, et moi et Blop. Et en fait, donc ça, c'est 2002, et puis voilà, on part en mission avec Small, on va voler des bombes, on va faire un train, et en plus de ça, on le voit rouler immédiatement juste après, quoi, à 18h.
Oh, le truc de fou.
Donc le truc de fou, donc là, à partir de ce moment-là, là, c'est... Addiction directe.
Ah bah oui, voilà. Tu m'étonnes. Tu Donc, m'étonnes.
Là, ça part à 100%.
Là, ça y est, t'étais piqué. T'étais,
voilà, c'est ça.
Furée. Ah ouais, belle histoire. Hein, pas mal.
Bah, écoute, je n'ai pas fait exprès.
Non, mais c'est des histoires comme on les aime. Moi, j'aime bien. C'est des vieilles histoires de graffiti comme ça.
Ah ouais,
c'est pour parfaire un peu mon éducation.
Yes.
Ok, donc du coup... Tu es ado, mais jusqu'à aujourd'hui, tu tags toujours, tu fais toujours du graffiti ou pas ?
Je fais toujours du graffiti, un peu en dilettante maintenant, parce que ouais. voilà, ça commence en 2001, et en gros, il y a un gros parcours graffiti vandale jusqu'en 2009-2010.
Okay.
La grosse arrestation. Donc voilà, c'est des, beaucoup de rues, beaucoup de trains, ça va faire des métros dans toute l'Europe. Vraiment, je suis impliqué vraiment à 100%. Quoi.
Oui, d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'effectivement, tu avais pas mal voyagé. Ouais. Alors, est-ce que c'est grâce à ça, je sais pas, ou...
C'est le voyage fait partie du truc du roller au départ, puis ouais. Après, on l'applique au graffiti. Et parce qu'en fait, quand tu graves des trains, tu as envie de collectionner un peu des modèles qui sont différents des trains que tu vois en France.
Forcément, ouais.
Donc tu t'aperçois qu'en Espagne, les trains, ils sont pas pareils.
Pareil,
donc
ouais.
Tu as envie de les graffer.
Et, ouais.
Et une fois que tu as capté que ça, c'est valable pour tous les autres pays, tu vas voir ce qui se passe ailleurs.
Je vais faire
ailleurs,
des
quoi.
Trains partout.
Voilà, donc ça, c'est... Voilà.
D'accord, donc beaucoup de trains pour Salamèche.
Voilà, oui. À peu près 500 trains
en
une dizaine d'années. Ouais.
Vous êtes sur Divergence FM et vous écoutez le best-of de Terrain Vague.
Nous accueillons Laura Kinsel et Béatrice Baldacchino en charge du mécénat et de la culture au CHU de Montpellier. Bonjour mesdames.
Bonjour Laura.
Merci d'être venue au micro de Terrain Vague chez Divergence.
Avec plaisir.
Alors aujourd'hui, petit topo rapide, pourquoi j'invite ces dames du CHU de Montpellier? Parce que Line-Up travaille avec le CHU de Montpellier depuis quelques années déjà, dans le cadre de projets artistiques, alors souvent dans le cadre de dispositifs culture et santé avec la DRAC et l'ARS Occitanie. Donc c'est des projets assez variés, c'est pratiquement toujours des réalisations de fresques, toujours avec la participation de patients de certains services du CHU. Donc on a pu faire des fresques avec ADEC, avec Noun, avec Salamèche, qu'on a reçues au micro Terrain Vague. Donc voilà, j'avais envie de vous inviter toutes les deux pour qu'on parle un peu de ces projets-là, de la place de l'art urbain dans le CHU, parce que c'est assez atypique, assez inédit. On va commencer par vous présenter toutes les deux. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos missions? Qu'est-ce que c'est? Il y a du mécénat de la culture au CHU. Des fois, peut-être, ça peut être un peu abstrait pour certaines personnes. Dites-nous en quoi ça consiste.
Alors, au CHU, notre rôle, c'est de permettre d'avoir des projets qui sortent un peu de l'univers médical pur, en apportant des fonds privés. Donc, okay. Notre objectif, c'est d'aller collecter des fonds auprès d'entreprises, de particuliers, d'associations, de fondations.
D'accord.
Qui veulent contribuer à développer des projets au profit des patients, des soignants, des équipes et des usagers en général du CHU. Mmh. Et de mettre en œuvre ces projets-là en collaboration toujours. C'est toujours co-construit avec les équipes du terrain.
D'accord.
Voilà.
Et alors oui, c'est bien de dire que c'est aussi pour les soignants, parce que effectivement, les patients, c'est en général le public privilégié et ciblé pour ce type d'action. Mais tout le personnel qui travaille et qui est nombreux, en plus, dans les murs de ce CHU, c'est cool que ce soit aussi à leur destination. Et dans les projets menés avec Line-Up, on inclut toujours les soignants, les familles, quand elles sont là aussi dans ces projets. Au quotidien, du coup, dans l'année, est-ce que vous menez beaucoup de projets? Quels sont les types d'actions que vous menez avec ces mécènes? Béatrice?
Du coup, j'en profite pour me présenter, dire ce que je fais avec Laura. Donc, en fait, effectivement, Laura va chercher des mécènes.
Ouais.
Et ensuite, moi, je suis en contact avec les équipes pour savoir quels sont les projets. Donc, on peut lancer un appel à projets internes ou pas. Ils peuvent venir vers nous,
okay,
et nous dire qu'ils souhaiteraient améliorer telle ou telle situation dans l'hôpital, dans
d'accord
un service, pour accueillir des patients ou pour... faire du bien aux hospitaliers. Et donc, en fait, moi, je suis de contact sur le terrain avec les cadres de santé, avec
d'accord
les soignants, pour mettre en place ce qui a été possible de réaliser grâce au fonds
okay
qu'on a récolté via le fonds Guillaume, en fait.
Ok. Ouais. Ah oui, vous avez carrément les doléances de certains services qui disent « moi, j'aimerais bien... faire tel projet ».
Et, ouais, et ça, c'est assez génial parce que les équipes sont très, très motrices dans ces projets-là. C'est elles qui viennent nous voir en nous disant « on aimerait beaucoup faire ça ». Ça
okay
sort du cadre de leur mission,
ouais.
Ouais,
bien sûr,
de leur fiche de poste, mais ils ont envie d'améliorer les conditions d'accueil dans les services. Et ça, c'est assez chouette. On
c'est
est entouré
bien
de personnes super motivées pour ces projets.
Et oui. Et est-ce que vous-même, vous êtes des fois force de proposition? Est-ce qu'il y a des petits projets qui vous titillent? Oh, ce serait cool de faire ça aussi.
On essaye. On avait super envie, par exemple, de mettre en place de la médiation animale dans des services. Ce qu'on a pu faire l'année dernière, il y a le service des soins palliatifs qui est venu nous voir en nous disant « on aimerait beaucoup faire ça ». Et nous, c'était quelque chose qu'on avait aussi, qu'on essayait de mettre en place.
D'accord.
Donc voilà.
Et eux, ils connaissaient une association qui faisait ça, donc ça a été mis en place depuis la rentrée 2023, et ils sont ravis et ils souhaitent qu'une chose, c'est que ça continue en fait.
Et ça consiste en quoi ? Quel type d'animaux vient dans le CHU ?
Des chats, des chiens. Il y a même un CHU où ils ont fait venir un poney.
Oh là là, ouais.
On n'a pas encore eu ça, nous, mais...
Ouais, bon, pas mal. Le CHU, il est assez grand pour faire venir... Ouais, des lapins. Le CHU, il est grand, on peut faire venir des animaux. Hein.
Ouais.
Mais des chats, des chiens,
il y a beaucoup de contraintes d'hygiène,
et
contraintes
forcément
sanitaires. Ouais, ouais. Mais voilà, on a réussi à dépasser tout ça, à mettre un cadre qui le permette.
Et vous arrivez à... Enfin, alors, j'ai envie de dire, à accéder à toutes les requêtes des soignants. J'imagine que non, il y a forcément des limites. Comment vous faites pour donner la priorité à tel ou tel projet, enfin, comment ça se passe ?
Ça dépend du montant des fonds qu'on peut récolter.
D'accord.
Et en fait, l'année dernière, il y avait eu une espèce de jury, je ne sais pas si on peut appeler ça un jury interne, qui a écouté effectivement toutes les demandes des services et qui a dû faire un choix.
D'accord.
Puisque voilà, on n'a pas un budget illimité, donc
malheureusement,
il y a des moments où il faut faire des choix.
Eh oui, eh ouais, il faut trancher après, c'est terrible, mais c'est comme ça. Quel type, comme ça, ce que vous avez en dehors des projets avec Line-Up, quel autre type de projets, alors artistiques pour le coup, sont menés dans le CHU ? Est-ce que vous avez des...
Dans le cadre du programme Culture et Santé avec la DRAC et l'ARS, on dépose chaque année pas mal de dossiers, entre 6 et 10.
Ah oui.
En général, on a par chance le soutien de la DRAC et l'ARS qui sont OK avec ces projets-là et qui sont très, très variés. On a par exemple des ateliers marionnettes en pédiatrie et en pédopsychiatrie.
Cool.
On a, et c'est toujours en collaboration avec des opérateurs culturels qui travaillent avec les services pour monter ces projets-là, pour coller vraiment aux besoins du service. On a aussi un atelier de danse contemporaine en oncologie, donc des personnes atteintes de cancer.
Ok.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
L'origami aussi pour les enfants. Ouais. Quelqu'un. Et puis en plus, il fait faire de l'origami aux enfants et il forme les éducatrices du service pédiatrie pour qu'elles puissent elles-mêmes organiser des ateliers après. Donc ça, c'est vraiment
assez chouette.
Important.
Il y a un côté transmission.
Voilà. Ils forment en fait les éducatrices du service de pédiatrie pour qu'elles puissent continuer à le faire après.
C'est génial.
On a eu le théâtre des 13-20 l'année dernière aussi, avec qui on a fait une grosse... un documentaire in situ au club qui est à l'hôpital de la Colombière, en fait, avec les patients en psychiatrie. Donc, ils sont venus passer un mois sur place.
Ah oui,
ils ont réalisé un documentaire.
C'était
une résidence, oui.
Super.
Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on a
eu ? Et vous en avez sorti un court-métrage
qui est en ligne, d'ailleurs, qui est visible sur
YouTube. On encourage tout le monde à aller le voir, parce que j'irai le voir, je suis sûre qu'il doit être très bien. Alors, pour aborder un peu le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comme je disais au début de l'émission, on intervient depuis quelques années dans le CHU de Montpellier, alors que ce soit côté La Péronnière, Arnaud-Villeneuve, La Colombière, ou de l'autre côté Saint-Éloi, Guitte-Chauliac. Quel a été... Alors, je sais que ça a démarré avant que vous deux vous arriviez au CHU. Quelle est un peu l'intention d'amener l'art urbain dans les murs du CHU, que ce soit à l'intérieur, par exemple, Salamèche, l'année dernière, a réalisé une fresque dans la passerelle qui relie Arnaud-Villeneuve à la Péronnie. Mais ADEC a réalisé une fresque côté... Alors, je ne sais plus si c'est Saint-Éloi ou Guitte-Chauliac, je confonds toujours les deux.
Guitte-Chauliac.
Donc, une très, très longue fresque sur un mur extérieur. Donc, on est dedans, on est dehors. Quel est le moteur, en fait, de ces projets ? Enfin, pourquoi est-ce que le CHU a envie, comme ça, de...
Alors, la volonté au départ, c'est parti de notre ancien directeur général, Thomas Leludec, qui avait envie de faire un parcours de street art au sein du CHU. L'idée derrière, c'est de se dire, le CHU, c'est énorme. On a 8 établissements, c'est vraiment une ville dans la ville.
Ouais.
Et en tant que ville dans la ville, il faut qu'on puisse y apporter de l'art. Il faut qu'on puisse faire en sorte que les passants, les usagers, mais aussi n'importe qui souhaiterait déambuler, traverser dans le CHU, puissent voir de l'art au sein de ces établissements. Donc ça a commencé en 2019. Mm-hmm. Depuis, chaque année, on essaye de réaliser de nouvelles fresques. Yes. On essaye de trouver des fonds pour pouvoir réaliser ces nouvelles fresques.
C'est le nerf de la guerre.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est de véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan, tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.